voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Madeleine, elle, a suivi un parcours d'agronome spécialisé dans les questions environnementales. Nourrie de quelques expériences sous diverses latitudes, de quelques années d'accompagnement de filières de valorisation agricole, elle s'est passionnée pour l'agriculture paysanne. Aujourd'hui formatrice en agroécologie, je l'ai rencontrée dans les jardins de Terre et Humanisme en Ardèche. L'émission s'appelle La Voix du Kaizen. Dans cette série d'émissions, je donne la parole à des éleveurs, des agriculteurs, des paysans. Je m'intéresse au monde rural et je fais un tour de France pour rencontrer des gens qui ont des projets porteurs de sens et des valeurs et qui essaient de les incarner dans leur quotidien. Et je suis avec Madeleine. Donc Madeleine, je ne sais pas grand-chose de toi, je sais que tu fais de la formation. Donc avant que tu m'expliques ce que tu fais ici en Ardèche, j'aimerais que tu présentes un petit peu ton itinéraire, ton parcours et ce qui fait que tu t'intéresses à ce milieu paysan et agricole.
J'ai eu la chance de grandir dans un petit village lorrain dans les années 80, dans un village où il y avait encore à l'époque, pour 700 habitants, il y avait encore 15 fermes. Et j'ai grandi dans une maison qui était située entre deux de ces petites fermes, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Du coup, j'ai assisté très tôt à des vélages, j'allais chercher les vaches au pré. Voilà, une petite ferme, bien sûr, très diversifiée, avec du petit élevage, du plus gros, un peu de production laitière, etc. Donc je pense que ça m'habite depuis toujours. Et j'ai eu un parcours, j'ai eu la chance de passer mes années de lycée en Nouvelle-Calédonie, ce qui m'a donné une autre approche, ce qui a confirmé un peu mon approche, mon lien à la nature. C'est ce qui m'a orientée vers des études de biologie à la base. J'ai passé 4 ans sur les bancs de la fac à apprendre plein de choses passionnantes, faire des stages assez chouettes en réserve, en parc, etc. Et c'est là que je me suis posé les premières questions sur justement le lien entre cette envie de préserver la nature et de la connaître et l'agriculture qui la côtoie. Dans la mesure où, quand on est en réserve, en parc, etc., on peut faire de super inventaires de faune sauvage, etc. Et puis, se rendre compte que, à la limite du parc, les pratiques agricoles peuvent être néfastes pour ces milieux-là, quoi. Du coup, j'ai fini mon parcours, mes études par une école d'agronomie. J'ai intégré l'école d'agronomie de Nancy après ma maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. Et là, une grande surprise pour moi, en école d'agro, on ne parlait pas de la vie du sol. Alors que j'avais eu des profs en fac passionnés par la vie du sol, je me suis retrouvée à apprendre les rations alimentaires d'une vache, les rendements de blé et les besoins du blé pour croître, sans aucune considération du terroir et du lieu où on les cultivait, quoi. Ça a été vraiment une époque de grosses interrogations. Et une époque aussi où j'ai vu ma première conférence de Pierre Rabhi, qui venait un peu dans la foulée de ma rencontre avec Claude et Lydia Bourguignon. Donc encore et encore du sens, ça me rassurait de me dire bon ça va, il y en a qui ont une vision plus globale et qui effectivement nous interpellent sur, je pense, ces problématiques actuelles qu'on a de tout ranger dans des cases et de traiter les sujets seulement par domaine spécialisé, quoi, un peu. Du coup, j'ai travaillé, après mon école d'agro, j'ai travaillé dans la fertilisation organique, dans tout ce qui est plan d'épandage, compostage, et même la méthanisation. Parce que pour moi, c'était un peu la petite fenêtre, en gros, pour ramener de la vie au sol dans le schéma agricole actuel. C'était par là que ça pouvait passer, quoi. J'ai bossé dans des petits et gros bureaux d'études pendant un peu plus de 5 ans. J'ai coupé avec cette vie-là et j'ai commencé ici, à Terre Humanisme, ma formation d'animateur en agroécologie. Parce que pour moi, l'agroécologie, c'était vraiment l'approche de l'agriculture qui me parle et qui me semble être celle qui intègre le bon sens paysan. Et du coup, la vie de l'écosystème, etc. Je suis rentrée ici en me disant, j'espère pouvoir accompagner la transition agricole, etc. Chose que j'ai un peu fait, on peut dire, mais...
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Avant de continuer, tu me parles de transition, transition paysanne. Pourquoi amorcer une transition? Qu'est-ce que c'est que pour toi cette transition? Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, voire même nécessaire ou essentielle?
Bah, tout de suite, ce qui me vient, c'est le déclic moi, qui m'est venu justement quand je bossais dans le dernier gros bureau d'études où j'étais. J'accompagnais des paysans sur leur plan d'épandage. Et un jour, je discutais avec un ancien qui était à l'aube de la retraite. Et je lui demandais s'il n'y avait aucun de ses enfants qui allait reprendre la ferme, etc. Et il m'a dit bah non, puis c'est finalement pas plus mal. Il m'a dit ça avec la larme à l'œil, ce qui est assez rare dans le monde paysan. Il m'a dit en fait c'est pas plus mal que les enfants reprennent pas quand tu vois ce qu'on a fait de la ferme des parents. Et ça je crois que c'était le jour où c'était un petit peu la goutte d'eau nécessaire pour moi, pour vraiment me dire oui effectivement notre système agricole il est aberrant et est-ce que je veux continuer à y contribuer ou pas? Est-ce qu'on peut faire autrement et comment? Moi, j'ai côtoyé justement des agriculteurs qui avaient vraiment beaucoup d'endettement et peu de portes de sortie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans des systèmes qui les ont un peu emprisonnés, avec beaucoup de mécanisation, avec beaucoup d'intrants, du coup, souvent beaucoup d'investissements. Et du coup, même s'ils rêvent d'autre chose, ils ont du mal à imaginer pouvoir en sortir, quoi. Évidemment, moi, j'aspire à un monde où déjà les paysans seraient reconnus pour la noblesse de ce métier, parce que c'est quand même eux qui nous produisent toutes nos matières premières, c'est-à-dire que même si elles sont passées par 15 intermédiaires industriels ou pas, c'est quand même eux qui nous fournissent tout ce qui nous nourrit. Et c'est loin d'être la catégorie professionnelle aujourd'hui qui s'épanouit le mieux. C'est même, je pense, une des populations où il y a probablement le plus de souffrance et de questionnement, quoi. Justement sur le sens de ce qu'ils font.
Pourquoi
Pourquoi cette souffrance?
Pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'être paysan?
Un jour, il y en a un qui m'a dit, de toute façon, avec les aides et tout ça, on décide plus de ce qu'on fait. On ferait mieux d'assumer, de dire qu'on est des ouvriers, et puis ils pourraient même nous traiter comme des fonctionnaires, puisque c'est les aides qui décident de la pertinence. Enfin, nos choix, ils sont pas pertinents agronomiquement. Ils sont décidés par la PAC, en fait.
Donc, explique-moi ce système. Donc, toi, tu es dans cet univers-là, donc ça te paraît clair, fluide et limpide. Mais finalement, si on prend la population française, les paysans représentent moins de 1%. Ça veut dire que 99% des gens, ou peut-être toi, auditeur, qui entends cette émission, n'est pas au courant de ce qui se passe. La PAC, donc Politique Agricole Commune, mais explique-moi un peu ce système, ce fonctionnement, et comment fonctionnent les paysans qui sont dans ce système de subvention.
En fait, la politique agricole commune, c'est au départ une super initiative européenne. C'était à la sortie de la guerre, on avait besoin de nourrir la France et les autres pays européens. Mais en tout cas, en France, on a décidé de soutenir la production, c'est-à-dire du coup de soutenir le développement des productions. Et on a beaucoup aidé par des aides du coup gouvernementales. On a beaucoup aidé... les investissements, c'est-à-dire qu'on a aidé les paysans à se mécaniser, à agrandir leurs fermes, à agrandir leurs troupeaux, pour produire plus, tout simplement, pour nourrir les Français. Ce qui était à l'époque pertinent, ce qui a par contre amené rapidement à des excédents de production. Je résume, hein. Mais il se trouve qu'on a rapidement produit plus de lait que nécessaire, d'où d'ailleurs toutes ces publicités pour les produits laitiers. On exporte des produits laitiers, des poudres de lait, etc. Sur les marchés mondiaux, du coup, à des prix dérisoires, puisqu'ils sont soutenus dans leur production, donc ils ne sont pas vendus le prix, leur vraie valeur. Ils sont vendus à prix cassé, quoi. Et c'est exactement le même principe pour l'élevage hors sol, l'élevage qu'on dit aujourd'hui industriel, et on peut le dire, hein, on met quand même... aujourd'hui, on entasse des animaux dans des bâtiments avec des tuyaux qui les nourrissent. Pour finalement quoi? Pour qu'on ait du jambon et du poulet à prix dérisoire. À prix dérisoire, pas forcément, parce qu'en fait, je pense que si on prenait vraiment en considération sa valeur nutritionnelle à cette viande, effectivement, elle vaut peut-être pas beaucoup plus que ça. Ce qui est triste aussi, c'est que ces mécanismes-là, ils ont aussi un impact sur les marchés mondiaux, puisqu'en fait, tout ce qu'on ne consomme pas, on l'envoie sur les marchés mondiaux.
Donc, donne-moi des exemples concrets, parce qu'effectivement, tu parles de prix dérisoire ou de prix cassé, qui s'oppose à la notion du prix juste. Donc, le fait de produire un litre de lait subventionné va donner au litre un prix cassé qui va être exporté, donc du coup, qui va avoir un impact sur le système mondial. Comment? Pourquoi?
Alors, comment? Pourquoi? En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a Il y a des oignons et du poulet qui arrivent d'ailleurs, alors d'Europe, mais aussi des fois de Chine. Enfin, de l'autre côté de l'Afrique, c'est plutôt de Chine que ça provient. Ces productions-là, en fait, elles arrivent tellement à bas prix que du coup, les pays qui les reçoivent tentent une concurrence là-dessus, et du coup, au détriment de leur culture vivrière.
Ça veut dire que le paysan sénégalais qui produit de la volaille ne pourra plus vendre sur son marché ses productions parce qu'arrivent de l'étranger des productions à prix cassé.
Où il vend ses productions, mais elles sont soit il faut qu'il baisse ses prix pour un peu s'aligner sur ces prix-là, soit elles sont plus que destinées à une frange de population qui a un peu plus de moyens. Donc ça biaise complètement les marchés locaux. Et c'est valable sur vraiment, ouais, je citais les oignons, mais c'est valable sur la plupart des cultures et des productions agricoles.
Tu me disais avant que les paysans étaient plus des exploitants, ou comment tu utilisais, ou des fonctionnaires devraient être fonctionnaires.
Alors ça, c'est un des exploitants agricoles que j'ai côtoyé, parce qu'il se disait vraiment exploitant agricole. D'ailleurs, ça lui plaisait pas comme terme, parce que justement, lui, il n'avait pas l'impression d'exploiter son terroir. Mais c'est un jour une réflexion qu'on a eue, où vraiment, il me dit, en fait, dès l'instant, en fait, leur revenu, que ce soit mensuel ou annuel, on peut le prendre à l'échelle annuelle, ils sont... C'est ce que me disait Jérôme ce jour-là. Pour lui, son revenu, il est à 70 à 80% issu des subventions et non pas des ventes de ses productions. Donc c'est complètement aberrant dans la mesure où on est un pays, entre guillemets, développé. On a plein de technologies et d'avancées scientifiques, agronomiques pour produire correctement. Mais pourtant... C'est les aides européennes qui soutiennent les paysans. Et non pas... Ils ne vivent pas de leur production. Et je pense que la plupart préféreraient sincèrement vivre de production justement payée et justement valorisée aussi. Parce que là, on parlait du litre de lait. Donc quand on voit le prix du litre de lait qu'on peut acheter, toi comme moi, en grande ou moyenne surface, c'est hallucinant parce qu'en fait, le paysan en sortie de ferme est payé, alors c'est très variable, mais il touche moins de, allez, on va dire 10 à 20% de ce prix-là. Alors qu'entre-temps, la coopérative qui a pris son lait, et qui l'a ou transformé ou revendu à un autre transformateur, a pu faire de la crème, a fait d'autres produits laitiers entre-temps, donc a écrémé ce lait qui nous vend avec donc moins de valeur nutritionnelle, et nous le revend entre 4 et 5 fois son prix, quoi. Ce qui est aberrant parce que moi je trouve que c'est quand même le producteur qui devrait en avoir, celui qui prend soin de ses vaches, qui devrait avoir la plus grande partie du prix d'achat du client, quoi.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une régularisation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des lois qui sont votées pour essayer de rendre ce système plus juste?
Pourquoi? Parce que justement, en plus, c'est dommage parce que je parlais des coopératives, parce que sincèrement, c'est un peu comme la PAC. Les coopératives, au départ, la plupart étaient montées par des paysans. Et c'était pertinent de se regrouper pour transformer du lait en fromage. Sauf que petit à petit, malheureusement, ils ont perdu la main sur ce que devenaient les coopératives. Et maintenant, que ce soit des coopératives ou que ce n'est plus le statut de coopérative, c'est devenu des entreprises avec des actionnaires, avec des besoins de rendement énormes. Et du coup, qui se retrouvent à vendre aux paysans qui des fois ont monté ses propres coopératives de l'aliment pour le bétail, à acheter leur lait pour le transformer, et finalement il s'instaure un rapport complètement capitaliste d'offres et de demandes, etc. Je pense que en fait le monde paysan, c'est une des professions qui est la plus isolée pour l'avoir côtoyé. Vraiment, je pense que très peu de professions qui sont autant isolées. Chacun est dans sa ferme, parfois bosse avec son frangin ou la belle-sœur ou le voisin, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, ils ont très peu de force, de poids, de mobilisation. Et en plus, un taux d'occupation de leur temps qui est très conséquent. Donc, trouver de la place pour prendre du recul, se positionner, militer, c'est très compliqué.
Mais donc, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une scission au sein du mouvement paysan agricole. Il y a deux mouvements. Il y a ceux qui sont dans ce schéma de la production, aidés par la PAC, subventionnés pour produire au maximum en vivant sur des subventions, mais tu as aussi des gens plus en conscience peut-être, ou en tout cas qui essaient de se poser des bonnes questions pour voir comment produire autrement.
Tout à fait. Malheureusement, ceux-là, du coup, ils profitent pas forcément beaucoup de la PAC, parce que c'est souvent des gens qui sont dans des territoires de montagne ou dans des territoires un peu... ça peut être de la garrigue, des choses comme ça. Enfin, je pense à beaucoup d'éleveurs dont les pâtures sont pas forcément bien valorisées par les aides de la PAC. En fait, on dit que justement, on parle de paiement des services environnementaux. Ces paysans-là dont je parle, qui sont dans des coins un peu rudes, on peut dire, ou qui travaillent plus traditionnellement, ils sont justement pas rémunérés par de grandes surfaces ou par de grands cheptels. Donc, parce qu'ils sont pas payés. Enfin, si on est payé à la tête de bétail ou à l'hectare, une petite ferme, elle est effectivement pas beaucoup soutenue par l'Europe, quoi. Ceux-là, par contre, vont du coup tout miser sur justement la valorisation de leurs produits en circuit court, etc. Mais ils ont du coup, je crois, une meilleure résilience aux aléas, qu'ils soient climatiques, économiques. Ils sont mieux inscrits dans leur territoire. Ils ont, quand je dis une meilleure résilience, c'est aussi justement parce qu'ils prennent souvent plus soin de leur milieu. Et du coup, un exemple bête que je pense tout le monde peut connaître, on dit souvent quand on a des pucerons, l'idéal c'est d'avoir des coccinelles parce que la larve de la coccinelle va consommer les pucerons. De la même façon, pour n'importe quelle culture, plus j'ai de haies, plus j'ai de mares et plus j'ai de points un peu, comme les permaculteurs appellent la zone 5, c'est-à-dire une zone un peu sauvage, qui permet d'abriter des auxiliaires de culture, et moins j'aurai de ravages sur mes cultures. Je parle de ravages parce qu'en agriculture conventionnelle, aujourd'hui, on appelle les nuisibles aux cultures les ravageurs. Et souvent, parce que quand on est en monoculture, par exemple, de maïs, si un ravageur trouve le plan, effectivement, comme on a de grosses surfaces dans la même culture, là, il y a de quoi manger pour tout le monde, et donc ça se reproduit beaucoup, et c'est effectivement un ravage.
Pour lutter contre un ravage, on rentre en guerre.
On rentre en guerre et on s'arme d'ailleurs d'armes, parce que quand même, faut pas oublier que les pesticides qu'on utilise aujourd'hui sont issus de la chimie de la guerre. Donc c'est exactement ça, c'est contre un ravageur, qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes, quoi. Alors que justement, dans les petites fermes dont je parlais, souvent on a dans notre environnement, alors effectivement c'est pas valable pour tout et bien sûr il peut toujours y avoir un nuisible qui va se développer davantage, mais normalement on peut, dans un écosystème équilibré, considérer qu'il y aura toujours un prédateur pour chaque nuisible.
Donc cette notion d'écosystème est intéressante, c'est vrai que pour qu'un écosystème soit équilibré, il faut qu'il y ait de la diversité.
Ah, c'est fondamental. On peut pas parler d'écosystème sur une parcelle de monoculture de maïs. C'est pas un écosystème, c'est du maïs. Point.
Et au-delà de cet équilibre, sur monoculture de maïs, il y a cette notion de vie dans le sol qui n'existe plus.
Qui n'existe plus. Alors, il commence à se développer. En tout cas, cette approche de sol vivant, elle se développe de plus en plus, y compris sur des grosses fermes qui font ce qu'on appelle les grandes cultures, donc céréales, maïs, colza, pour faire court. De plus en plus, même d'exploitants agricoles. Je pense que tu as entendu que je distinguais paysans et exploitants agricoles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exploitants agricoles qui, justement, constatent le manque de résilience de leurs parcelles et, du coup, développent de plus en plus l'ensemencement dans leur sol, justement, c'est-à-dire le retour au compost, au fumier, etc., pour ramener de la vie au sol. Ou, par exemple, des intercultures qui vont nourrir le sol, comme... On parle souvent d'engrais verts, je sais pas si ça t'évoque quelque chose.
Les engrais qui sont vendus dans une bouteille en plastique verte?
Alors les engrais verts, c'est en fait le principe, c'est d'utiliser entre deux sessions de blé ou par exemple de blé, on peut mettre en culture des plantes qui elles-mêmes vont nourrir le sol, qui en gros vont être juste mises en culture pour pouvoir amender le sol. Ça peut être par exemple, les plus connus c'est quand même la famille des légumineuses. Les légumineuses, elles ont une faculté un peu magique et je pense qu'on ne valorise pas assez en agriculture aujourd'hui en France. Elles ont la capacité de pomper l'azote de l'air par un système vraiment de pompe en symbiose avec des bactéries dans leurs racines qui ramènent du coup l'azote au sol et donc peuvent nourrir leurs voisines.
Donc l'idée, c'est de réenrichir les sols et pas de les enrichir à travers un intrant.
Ah non, parce qu'un intrant, en fait, un intrant en tout cas chimique, du coup souvent amené sous forme liquide, etc., il va juste apporter les nutriments dont a besoin la plante. Il va pas rester dans le sol, il va être là. C'est comme si je te mettais sous perfusion de glucose, quoi. Ça va te nourrir, c'est pas te nourrir en fait, ça va te tenir, voilà, pour ne pas que tu cèdes. Mais c'est une espèce de résistance et de survie. Et c'est d'ailleurs, quand on est sous perf, c'est plutôt qu'on est en mode survie. Ça ne nourrit pas l'ensemble de notre organisme.
Belle image. Donc oui, tu as utilisé ce terme d'exploitant agricole, ce terme de paysan. On va les définir. Donc ça montre un peu ce clivage entre les deux modes de production qui existent aujourd'hui en France.
Je crois pas que le terme vienne du monde paysan. Je crois pas que ce soit eux qui aient pu inventer exploitant agricole. La plupart d'entre eux se disent paysans, sauf quelques-uns comme ceux que j'ai pu te citer tout à l'heure qui assument et te disent « mais moi je suis plus paysan ». Un paysan, c'est un gars du pays, c'est un gars qui prend soin de sa terre. Moi, j'obéis à la chambre d'agriculture qui dit tel jour faut traiter parce qu'il risque d'y avoir une invasion de ceci, de cela. Hop, on obéit. En fait, on est des. C'est pour ça qu'il me disait, on est un peu des ouvriers fonctionnaires, quoi. Donc, exploitant, c'est terrible parce qu'effectivement, dans le terme exploitant, il y a exploiter son terrain. Et je pense pas que les paysans se sentent exploitants à la base. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que c'est aussi un métier où on est. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais, on est 1% aujourd'hui, il y a plus qu'1% de paysans en France. Il y a pas si longtemps, on avait quasiment dans chaque famille un paysan. Donc, on s'en est très vite déconnecté, mais il y a vraiment quelques décennies encore, il y avait un paysan dans chaque famille. Et il faut pas oublier que c'est pas seulement un métier, être paysan. C'est un patrimoine familial. Quand on reprend une ferme, on reprend la ferme de parfois de 10 générations, de 15 générations. Et du coup, c'est aussi valoriser le travail qu'ont fait les anciens. Quand tu vois ici, comme ici, dans des milieux un peu montagneux, toutes ces terrasses qui ont été bâties partout pour pouvoir, comme le dit Jean-Paul, aplanir les montagnes pour pouvoir y cultiver. Ça, c'est presque un devoir, une responsabilité que de valoriser ce travail qui a été fait, quoi.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas justement un... Est-ce qu'on peut pas être un peu plus optimiste aujourd'hui ? J'ai quand même beaucoup de gens qui font ce retour à la terre ou qui sont dans le bio, par exemple, est en train de progresser.
C'est vrai, c'est enthousiasmant. Enfin, en tout cas, je comprends que tu puisses y voir une forme d'optimisme. Maintenant... J'ai envie de mettre un petit... Enfin, techniquement, je me sens quand même une forme de vigilance avec ça. Évidemment, je me réjouis parce qu'il y a 15 ans, quand je voulais consommer bio, c'était quand même un sacré... C'était presque un sacerdoce que de faire ses courses et de trouver tout un approvisionnement sain. Aujourd'hui, c'est sympa, on en trouve plus facilement. On en trouve plus facilement, mais quel bio ? Transformer comment ? Valoriser comment ? Est-ce que vraiment les producteurs en sont payés, encore une fois, la juste valeur de leurs produits ? Parce que dès l'instant où quand même c'est l'industrie agroalimentaire qui s'approprie ou qui s'invite dans une niche, alors oui, du coup, ça démocratise la chose, elle est accessible à plus de monde. Mais ça reste un système, je crois que ça en tout cas, ça s'est juste intégré au système agro-industriel. Et puis du coup, même si encore une fois je soutiens fort le label bio, mais attention, aujourd'hui on peut trouver des tomates bio qui sont cultivées sous serre, hors saison, avec du chauffage, en monoculture de tomates, quoi. On peut faire de la monoculture en bio, quoi. Et faut pas oublier que du coup aussi, parce que la monoculture est complètement possible en bio, on a quelques traitements possibles aussi en bio. Donc c'est mieux que d'autres formes d'agriculture. Maintenant, c'est pas, je pense, l'idéal pour demain. Enfin, c'est pas ce que je souhaite pour demain.
Mais donc, le bio répond ou peut encore répondre aujourd'hui à une logique économique et pas forcément à une prise de conscience.
Complètement. Moi, j'ai vraiment connu des paysans qui transitaient vers le bio pour l'aspect prix du lait racheté, etc. Et ils font un calcul et. Et si la conversion vaut le coup, parce qu'il faut quand même payer une conversion, ils passent le cap. Ça peut complètement être une motivation économique, ce qui n'est pas grave en soi. C'est encore une fois plus de terres qui sont mieux traitées, mieux soignées. Mais est-ce qu'elles sont vraiment soignées ? C'est pas, enfin, le label bio ne garantit pas qu'on prenne soin des oiseaux et de la vie du sol, etc. Donc c'est un petit pas. Maintenant, il me semble que c'est pas une finalité, quoi. Par contre, oui, des installations agricoles aujourd'hui qui sont, comme tu le disais, sur des petites structures très diversifiées, qui du coup souvent se passent des aides de PAC, puisqu'en fait elles ont rarement de créneaux à saisir, elles correspondent pas forcément au modèle qui est soutenu, mais qui du coup vont bien valoriser leurs produits à l'échelle d'un territoire, et tout ça existe. Ce qui est intéressant aujourd'hui en France, c'est que on est à un peu plus d'un tiers, il me semble, hein. C'est peut-être pas des données très fraîches, mais un peu plus d'un tiers des installations agricoles en ce moment qui sont hors cadre familial. Ça veut dire que c'est justement des gens qui ne sont pas fils de paysans, qui n'ont pas de ferme à reprendre et qui quand même font, comme tu le disais, ce retour à la terre. Donc c'est bon signe. Moi, ça me donne l'espoir. Je me dis que peut-être un jour, on aura de nouveau un paysan dans chaque famille.
Je vais m'intéresser à ce tiers-là, donc qui ne vient pas du monde paysan, mais qui y retourne par conviction, bien souvent par conviction, par valeur et par croyance. Ce tiers-là qui décide de s'installer, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui Ok, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ce que j'observe autour de moi, je reprends ma vie en main et je mets de la conviction et de la valeur dans ce que je fais avec mes mains. Je veux devenir maraîcher, ou je veux devenir paysan, ou je veux devenir apiculteur. Est-ce que c'est possible?
Alors oui, tout est possible. à quel coût, à quel prix, à quelle énergie à investir, c'est là la question. Moi, je connais de superbes cas d'installation qui sont aujourd'hui bien épanouis, qui ont cependant passé des phases assez difficiles. Je pense à un maraîcher qui avant vient du domaine de l'informatique et qui a complètement tout plaqué du jour au lendemain pour justement vraiment ce rapport à ses mains. Il avait vraiment besoin de produire de ses mains et non plus de son cerveau. Il produit des légumes magnifiques, il aime ce qu'il fait, il est super épanoui. Par contre, évidemment, enfin, son parcours a été assez délicat parce que il a eu du mal à trouver du foncier. Parce que quand même, voilà, c'est une grande facilité quand on vient du monde paysan, c'est qu'on potentiellement on a du foncier. Alors, des fois, c'est un faux cadeau parce que si les fermes se sont beaucoup étendues, ça peut être un challenge de réussir à racheter une ferme qui s'est trop étendue. Donc, je connais des fils de paysans qui disent, bah, c'est plus facile pour vous parce que vous pouvez trouver des petits lopins de terre. Cela dit, voilà, ces petits lopins de terre, il faut non seulement les trouver, ils sont pas toujours disponibles. Ils sont pas toujours disponibles pour des nouvelles installations parce qu'il y a souvent des voisins paysans qui les reluquent et qui les attendent pour encore agrandir leur ferme. Donc, c'est une certaine bataille, en tout cas, au niveau de l'étape acquisition de foncier. Heureusement, il y a des structures comme Terre de Lien, qui du coup est une foncière qui permet vraiment de faciliter l'accès à la terre. Il y en a d'autres, hein. Moi, je connais un village en Centre-Bretagne où ils ont monté une SCI communale. Du coup, n'importe qui peut prendre une part, c'est 100 euros, et ça permet d'acquérir des terres pour l'installation.
Pourquoi est-ce que certains veulent encore développer, veulent acquérir plus de terres? Tu disais que les gros veulent toujours plus. Pourquoi vouloir plus de terres? C'est du boulot en plus?
c'est pas forcément beaucoup de boulot en plus, parce qu'une fois que t'as un gros tracteur et une grosse moissonneuse-batteuse à rentabiliser, il vaut mieux avoir plus de terres pour la rentabiliser. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'évidemment elle va s'user plus vite, mais il faut quand même plus de terre pour la rentabiliser. Et en fait, il faut savoir que les aides, une grosse partie des aides de la politique agricole commune sont calculées à la surface. C'est comme si ton salaire il était proportionnel à la surface de ton bureau, quoi. Bah, tu veux un grand bureau. Enfin...
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Dès que j'ai été animatrice en agroécologie, j'ai été embauchée à l'Oasis de Penouat, qui est donc l'antenne bretonne de Terre et Humanisme, pour accompagner une association qui s'appelle Accès Réagit, qui est au nord de Nantes, à Saint-Gilda-des-Bois, qui avait décidé, dans sa logique aussi d'accompagnement vers l'insertion professionnelle, d'aller plutôt vers l'agroécologie et non pas justement du bio. C'est-à-dire que leur pratique était bio, ils auraient pu se faire certifier, mais ils avaient vraiment besoin d'intégrer tout leur écosystème, y compris ces travailleurs un peu décrochés et les ramener aussi à la nature, etc. Moi, j'ai accompagné cette structure pendant 2 ans. C'était super intéressant, justement. Apport de compost, vie du sol, etc. On s'est régalé. Diversification des cultures pour association. Parce qu'en gros, ils avaient des serres où il y avait que de l'aubergine et on y a instauré d'autres cultures et puis surtout beaucoup de rotation aussi. Aujourd'hui, il y a un autre stage qui s'appelle le jardin vivrier en agroécologie, donc qui est plutôt pour des gens qui ont déjà un potager et qui veulent vraiment tendre vers l'autonomie. Et pour ma part, j'ai aussi, à ma grande surprise, j'ai été sollicitée ces dernières années pour de l'accompagnement d'équipes de jardiniers communaux. Parce qu'en fait, comme depuis le 1er janvier 2017, les communes ne doivent plus utiliser de pesticides, c'est tout un métier, toute une approche du métier qui est à revoir. Et du coup, j'ai eu la chance d'accompagner ces gars. Pourtant, moi, je suis pas du tout ni paysagiste, ni bon, j'y connais rien en plantes qui, en gros, ne se mangent pas. Mais on a vraiment, et c'est là que mon métier d'animatrice prend tout son sens, c'est que finalement, j'ai pas forcément beaucoup de contenu à apporter. Enfin, je peux venir avec justement ce que je connais de la vie du sol, etc. Et des écosystèmes. Mais en fait, on a vraiment composé pour lutter contre leurs ravageurs de jolies fleurs. Sauf chose que je savais pas qu'il y avait autant de ravageurs dans l'ornemental.
Donc si je comprends bien, donc toi Madeleine ici, tu es plutôt dans l'aspect formation, tu vas accompagner les gens vers des connaissances pour savoir comment faire, pour comprendre finalement ces écosystèmes et pour produire d'une manière respectueuse de la terre et de sa santé.
C'est ça, je fais de la formation mais je fais aussi de l'accompagnement de projet, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas forcément... seulement du contenu à apporter, mais vraiment aller chercher un peu l'essence de ce qui nous anime et pourquoi justement on veut s'installer paysan, pourquoi on veut devenir apiculteur et quels sont nos atouts, quelles vont être nos faiblesses, peut-être du collectif, peut-être de l'individuel. Et en tout cas, je connais personne qui n'ait pu faire marche arrière quand on commence à faire le premier petit pas vers un retour à la terre. Il n'est pas rembobinable. Merci.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.